Chapitre 35. Le chocolat, quand même. Karine est rentrée pour dîner avec l'interdiction d'évoquer les fouilles. Officiellement requise, elle a prêté serment de ne rien divulguer tant que l'enquête ne sera pas close. Sa langue brûle de ne pouvoir raconter la boîte, le linge, les os, mais elle a signé. Elle ne veut pas risquer 3 ans d'emprisonnement ni une amende mirobolante pour violation du secret de l'enquête. À table, il est question des chèvres dont l'arrivée est imminente, de l'actualité du potager qui déborde, de cette poule attaquée en plein jour par un rapace téméraire qui avait déjà eu le temps de lui croquer l'arrière-train avant d'être chassé par le chien, le même qui course les fameuses poules à longueur de journée pour s'amuser. À croire qu'il défend ses jouets. Ce chien fait rire tout le monde et la poule survivra à ses blessures. Clémence est rassurée. Elle s'est vite attachée aux animaux d'ici, et les autres à elle. Dans les courses, se trouve parfois un paquet de bonbons ou une petite attention de la part de Karine, un stick pour ses lèvres sèches, un crayon fantaisie. On évoque les petits chiens qui changent d'heure en heure. Rémi raconte l'émotion du vieux devant le cadeau de Clémence, qui choisit ce moment pour offrir la même corbeille à Capucine. Elle en a aussi promis une à Karine pour ranger tous ses produits de beauté. Elle s'est fabriqué un sac multicolore avec des chutes en tout genre pour accueillir ses pelotes. Clémence déborde de créativité et s'est vite affranchie des patrons et des schémas. Elle innove, essaie, invente de nouvelles formes, forçant l'admiration de tous. Surtout celle de Karine qui, à son âge, peinait à sortir des sentiers battus, de la norme, du troupeau. « Et toi, Rémi, tu fais quoi avec ton crochet ?» En guise de réponse, il brandit avec fierté son premier granit, dissimulé jusque-là dans sa poche. Il a d'abord essayé pour se calmer au milieu des véhicules de gendarmerie, puis il s'est pris au jeu, découvrant à quel point cette occupation lui vidait la tête. « Je me demande si une telle activité pourrait exister en prison. » « On te traiterait de pédé, » répond Adrien, la voix triste. Rémi regrette ce monde rempli de cases. Karine pense aux siennes. Des femmes l'ont détestée et d'autres la détesteront encore. Elle provoque, elle plaît. Son jeu de séduction fonctionne. De quoi attirer les foudres. Le repas terminé, Karine quitte la maison en emportant du thé et une tablette de chocolat. Elle a pitié des gendarmes. Ont-ils seulement mangé ? Un sandwich fatigué trouvé avant la fermeture de la boulangerie de proximité. Elle a proposé de les inviter à dîner. Ils n'ont pas voulu. Ils semblent avoir pour consigne de ne jamais rien accepter. Le chocolat, quand même. Plongée dans la lumière froide de l'halogène à l'entrée de la cavité, sans portable et sans montre, Karine n'a pas vu la nuit tomber. La douleur s'est éloignée de ses membres ankylosés. L'intérêt pour les fouilles. Anesthésiant puissant a pris le dessus. Ils ont à présent dégagé l'ensemble du squelette et les derniers morceaux de métal rouillé devenus dentelles. Ils devraient creuser davantage, mais les parois latérales risquent de s'effondrer avant. Elles sondent désormais le côté gauche, en face de la pierre 1942. Frédéric Legrand la trouve remarquablement appliquée. Lui, qui l'a jugée légère et aguicheuse au premier abord, découvre son courage dans la fosse. Il faut rester attentif à chaque détail, ne rien endommager, ne jamais sous-estimer les risques de passer à côté d'un élément déterminant pour l'enquête. Elle est revenue creuser malgré l'heure tardive, sans se plaindre, déterminée. Il l'entend forcer sur ses outils, souffler, geindre d'efforts quand l'argile est trop dure, trop lourde, quand il faut déplacer une pierre dans une position peu académique. À chaque fois qu'elle doit lui laisser sa place pour qu'il constate l'avancée du chantier, elle ressort brillante de sueur, le visage, les bras, les cuisses couverts de terre, et toujours souriante. Il eût été dommage qu'elle enfile une combinaison blanche, mais l'homme se surprend à imaginer son petit corps bien en chair en sortir, juste vêtu d'une petite culotte en coton et d'un... « Vous tenez le coup ?» demande-t-il en tâchant de se reconcentrer.
« Oui !»
hurle-t-elle.
« Je crois que je viens de mettre au jour autre chose. »
Ces mots sont étouffés par le souterrain, comme si celui-ci voulait garder le secret, ne pas dévoiler ce qu'il a caché jusque-là. Elle a trouvé un nouveau fragment de métal, sans doute un autre morceau de la boîte, et lui tend l'appareil photo. Après tout, elle se montre sérieuse. Il pourra contrôler instantanément le cliché, la faire recommencer le cas échéant, et éviter ainsi de se contorsionner en forçant encore sur cette vertèbre réfractaire qui lui chatouille le rachis depuis plusieurs mois. Les premiers éléments sont sous-scellés dans la camionnette. Ils ne seront ouverts qu'à l'Institut médico-légal. Le reste gît encore sous terre et repose sur les épaules de cette Karine avec un K, qui en est un à elle seule, se dit-il. Il attend dans la nuit, pianote quelques messages sur son téléphone, fait défiler les photos de ses derniers exploits en souriant d'un air satisfait, les nouvelles du monde. Aussi noir que le chocolat dont il a ouvert l'emballage, intense avec des morceaux de noisettes grillées, délicieux, un peu de réconfort après la découverte de ce squelette. Son expérience lui souffle que ce n'est pas celui d'un petit animal. L'os occipital et les deux minuscules pariétaux sont intacts et caractéristiques, effondrés sur eux-mêmes puisque les sutures n'étaient pas encore consolidées, ce qui laisse penser qu'il s'agit du crâne d'un nouveau-né ou d'un fœtus, proche du terme. Il attendra la réponse de l'anthropologue médico-légal, mais s'attend déjà à une conclusion sordide. Il craint aussi qu'il n'en ait pas un, mais trois. La mise en scène penche en ce sens. L'homme espère seulement que les dates sur les pierres correspondent à celles des corps, auquel cas le dossier relèvera du service départemental d'archéologie et non plus de la cellule d'identification criminelle qu'il dirige. Le grand est parfois las d'être aux premières loges dans le grand théâtre de l'horreur humaine, ce qui ne l'empêche pas d'aimer son métier, sa rigueur, sa dimension scientifique, ce petit côté Sherlock Holmes. Quand il était gosse, il passait son temps le nez dans les livres à étudier les techniques pour brouiller des pistes, envoyer des messages codés ou invisibles. Il se sentait invulnérable, capable de déjouer les pièges de tous les méchants du monde. Aujourd'hui, il ne se sent utile qu'aux victimes et à leurs familles. Ses grands rêves de justice ont laissé place à un sentiment d'impuissance. Il résout une affaire. D'accord, tant mieux, bravo. Et 10 autres arrivent. Il essaie de ne pas y penser, de ne pas baisser les bras devant l'ampleur des dégâts, de ne pas chercher à comprendre pourquoi l'homme peut être à ce point abominable. Il fait son travail, et le jour où son estomac se retournera vraiment, alors il demandera sa mutation dans un autre service. Thiriet a dû s'absenter pour une autre affaire. Les deux jeunes maréchaux des logis luttent contre la fatigue et ont accepté une barre de chocolat avec gratitude. Le grand serait bien resté quelques heures de plus, mais il ne peut décemment pas infliger à cette femme de creuser toute la nuit. Il chantonne « Nous approchons de l'heure où l'araignée des grottes sort pour se dégourdir les pattes. » Karine apparaît dans la minute, s'étonne de ne pas avoir vu passer le temps. « Ma compagnie fait souvent cet effet-là. Nous reprenons dès que possible, demain matin. Je serai là à 7 heures. »« Vous habitez loin ?»« À la caserne. »« Dans mon coquet LCNAS. »« Votre quoi ?»« Logement concédé par nécessité absolue de service. »« Mais j'ai un petit pied-à-terre rural sur les hauteurs pour me ressourcer pendant mes jours de repos. » Karine s'abstient de lui demander s'il a une famille, des enfants... Une femme, elle a constaté qu'il n'avait pas d'alliance.